Chers amis, merci d'être venus nombreux pour écouter Mathieu Davina. Vous le connaissez tous, donc c'est difficile de le présenter. Il est directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles. Il a écrit un certain nombre de livres que vous connaissez. Je vais rapidement essayer d'en donner la liste. Les Valets de Chambre de Louis XIV, édition Perrin en 2004. Réédition Le Grand Livre du Mois, Louis XIV et Versailles en 2009, Le Versailles de Louis XIV, Le fonctionnement d'une résidence royale au XVIIe siècle chez Perrin, Pour l'Histoire en septembre 2009, Alexandre Bontemps, premier valet de chambre de Louis XIV, qui est un livre particulièrement intéressant pour ceux qui veulent aller assez loin dans la proximité du grand roi. Le livre dont il va vous parler, Au service du roi, dans les coulisses de Versailles. Versailles, enquête historique, taille ordinaire en 2015. Alors, Au service du roi, dans les coulisses de Versailles, Mathieu me disait que c'est un travail qui a duré 4-5 ans, puisqu'il a été le conseiller pour cette réalisation de Versailles, cette série, si je puis dire, vous savez comme c'est important. Alors cette série, moi je ne l'ai pas vue, vous allez certainement la voir. Il faudra la regarder, je dirais, avec un œil peut-être pas d'historien, mais en disant que c'est un vecteur pour qu'il y ait de plus en plus d'amis de Versailles. C'est une manière d'être un passeur. Vous savez que les émissions historiques se développent beaucoup, et les émissions radiophoniques, comme celle de Franck Ferrand, qui tous les jours à 14h fait 600 000 auditeurs, et puis comme les émissions de télévision de Stéphane Bern, celle sur le patrimoine ou sur d'autres sujets où très souvent nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est dit, mais nous avons un très grand nombre de gens qui suivent. Voilà, donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je voulais simplement, puisqu'on est en train de Versailles, vous annoncer une grande nouvelle, c'est que votre société, les Amis de Versailles, ont fait un achat majeur, je dis bien majeur, le 18 novembre 2015. Ils ont participé de manière très significative à l'achat du bureau de Louis XIV, qui a été livré en 1685. En fait, c'était deux bureaux qui ont été livrés. Un qui était en marqueterie boule à fond d'écaille, c'est ce qu'on appelle en première partie, qui se trouve au Metropolitan Museum. Le second qui est passé dans une banque judiciaire chez Maître Fraisse. Et donc la Société des Amis de Versailles a pu se porter acquéreur avec l'aide de AXA, et ce bureau va être livré au château de Versailles probablement dans la semaine qui vient. Un comité scientifique sera nommé pour étudier si on peut le restaurer ou pas. En tout cas, c'est une œuvre significative. Nous communiquerons bientôt sur cet achat, mais grâce à vous tous, grâce à votre enthousiasme, votre passion, ce meuble qui était quitté Versailles va pouvoir y retourner. Bonne conférence.
Merci, Monsieur le Président. Je vais vous parler au service du roi dans les coulisses de Versailles, qui est un ouvrage qui relate plusieurs personnages de cour entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et c'est l'idée de cet ouvrage, mais néanmoins, plutôt que de vous reprendre personnage par personnage, j'ai préféré vous parler des domestiques à la cour en faisant évidemment des focus sur tel ou tel personnage. L'idée de ce livre provient d'un constat. Pendant longtemps, l'histoire de Versailles a été envisagée sur seulement quelques points, que ce soit au niveau de l'architecture, c'est-à-dire de considérer le château comme un chef-d'œuvre artistique. Par la suite, on a évoqué également l'art des jardins, et puis dans un second temps, on a pris l'historiographie s'est intéressée plus spécifiquement aux commanditaires et aux intentions politiques que renvoyait le château de Versailles. Enfin, on s'est intéressé également aux illustres habitants et sur les grands événements tels que les fêtes et divertissements. Je pense ici aux travaux de Patricia Bouchelot-Deschamps, notamment, et de Philippe Bossens sur les fêtes. Et plus récemment encore, on a envisagé le château dans sa globalité et dans l'ensemble de son domaine, notamment par les travaux de Grégory Kennett sur l'espace environnemental du château de Versailles et de tout ce qui l'environnait. Alors, évidemment, tout semble avoir été dit sur Versailles et son domaine, mais alors, et néanmoins, effectivement, lorsqu'on lit ou relit Pierre de Nolhac, qui est ce grand conservateur de Versailles, qui a officié au château à la fin du 19e et au début du 20e, on se rend bien compte qu'il est encore difficile de découvrir de nouvelles sources, tant l'académicien a parcouru les archives et les manuscrits relatifs à Versailles. Il est vrai que lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un livre sur Versailles, le premier réflexe, c'est d'aller voir cette somme qu'a écrite Pierre de Nolhac, et s'il ne cite pas toujours ses sources, on s'aperçoit que lorsque vous travaillez un petit peu dans les archives, vous découvrez quelque chose et vous le retrouvez finalement, vous vous rendez compte que Pierre de Nolhac l'a déjà vu en 1900, et vous êtes un peu déçu parfois. Néanmoins, c'est aussi le principe de l'histoire de redécouvrir les sources et de les lire avec un nouvel œil, puisque l'histoire se lit toujours avec non seulement les documents, mais également de façon subjective au regard de son époque. Ce sont ces travaux qui m'ont incité à pousser un petit peu sur la mécanique de cours, et notamment, je pense à Jacques Levron, puisque c'est cet aspect-là moi, qui m'intéresse plus particulièrement, le fonctionnement et les mécanismes de cours. Et Jacques Levron avait, au cours des années 1960, écrit un ouvrage qui s'appelait « Les Inconnus de Versailles », je crois que c'est 1968 de mémoire, et où il décrivait déjà un certain nombre de personnages tout à fait importants de la cour, mais qui étaient considérés comme des personnages de second rang. Alors il n'était pas le premier à s'intéresser à ces utilités, comme il les appelait, puisque Alfred Franklin, déjà à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avait écrit en plusieurs volumes la vie quotidienne des Parisiens entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, la vie privée d'autrefois, où on voyait tous ces métiers qui ressurgissaient devant nous. Je pense également à la collection lancée par Béatrix Saul à la fin des années 1990, ou la collection des métiers de Versailles avec l'éditeur Perrin, et qui a cherché à mettre en lumière un peu ces personnages secondaires. Je m'inscris donc dans l'ensemble de ces travaux, tant je suis convaincu que ce sont ces hommes, en particulier les domestiques et serviteurs, qui peuvent aujourd'hui éclairer un peu mieux la sociabilité du château. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la domesticité à Versailles entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et donc là c'est juste histoire d'illustrer un petit peu mon propos, et finalement voir comment tout cela, comment on considère la domesticité à Versailles et ce qu'on entend par ce terme. Après avoir évoqué les nombreuses charges de la cour dans leur ensemble, le juriste Charles Loiseau, qui est un juriste du début du XVIIe siècle, prenait soin d'écrire dans son livre sur les offices en 1610, voilà ce qu'il dit, « De ce que dessus, il s'ensuit que toutes sortes d'ordres et conditions de personnes ont place en la maison du roi, qui partant est comme l'abrégé de tout le royaume. » Vous voyez, la notion de domestique est très large, on va le voir au fur et à mesure de cette conférence. Il ne faut en effet pas voir la cour comme une entité unique où se pressent les courtisans les plus en vue. Par le nombre important de personnes qu'elle accueille, elle est en fait un véritable creuset de la société. Rappelons aussi le sens du terme courtisan qui, étymologiquement, désigne tout l'entourage de la cour, de personnages vivants à la cour. Et si on s'en tient aux périodes bien inférieures à celle de Louis XIV, la cour, c'est le roi, éventuellement sa famille, et les personnes qui les servent. Donc les courtisans, ce sont en premier lieu, la quintessence d'une courtisan, c'est le domestique. Versailles n'est donc pas exempt de cette tradition, et pour faire fonctionner cette immense machine, plusieurs milliers de personnes sont convoquées, depuis les plus simples marmitons, qui travaillent dans les cuisines, jusqu'aux plus grands seigneurs, qui présentent la chemise, notamment au lever du roi, le matin. On va s'en rendre compte, en fait, tout le monde est domestique à Versailles, qu'on soit le petit cuisinier ou le duc et pair qui vient présenter la chemise. C'est donc un monde disparate avec une pluralité de métiers qui gravitent dans cet immense espace qu'est la cour. Lorsque Louis XIV décide le 6 mai 1682 de faire de Versailles sa résidence principale et le lieu du pouvoir politique, les travaux sont loin d'être achevés. Vous avez ici une représentation qui commence à être connue maintenant du château de Versailles vers 1680, à l'emplacement de la Grande Écurie. C'est un tableau de la reine d'Angleterre. Vous voyez, c'est la date à peu près à laquelle le roi va venir s'installer à Versailles. Vous voyez qu'on est quand même loin du château d'aujourd'hui, et on voit cet immense chantier, et qu'il demeurera encore jusqu'à la fin du règne, voire au-delà. C'est ainsi que se côtoyaient dans un même espace ouvriers, charrons, cochers, porteurs de chaises, cuisiniers, valets, petits et grands seigneurs. Et quelques années auparavant, le courtisan italien Primi Visconti notait en 1673 déjà, voilà ce qu'il écrivait: c'est un beau spectacle de voir Louis XIV sortir du château avec les gardes du corps, les carrosses, les chevaux, les courtisans, les valets et une multitude de gens, tous en confusion, courant avec bruit autour de lui. Cela rappelle la reine des abeilles quand elle sort dans les champs avec son essaim. Alors cette douce mixité, tant qu'elle ne gêne pas réellement les individus dans leur mode de vie et d'action, ne semble pas choquer outre mesure les habitants de la cour, tant elle répond à l'image que le sont faits à l'époque de la monarchie française, qui, par tradition, se doit d'être accessible. Celle-ci est donc une monarchie assez différente des autres monarchies. Je pense en particulier à la monarchie espagnole, où le roi est vraiment mis à l'écart. En revanche, en France, vous avez une tradition qui fait que le roi se doit d'être accessible, et si il y a quelque chose à laquelle s'est vraiment tenu Louis XIV, c'est vraiment ce principe d'accessibilité qui pousse à l'extrême et qui parfois peut être perçu comme une domestication entre guillemets de la noblesse, mais c'est certainement un système qui l'a poussé au point le plus extrême, puisque Louis XIV a voulu avoir la cour la plus grosse autour de lui, et c'est ce qui fait que on peut imaginer cette idée de domestication. Cette accessibilité, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça se marque notamment par quiconque qui est bien habillé peut rentrer et circuler à la cour, vous le savez sans doute, c'est-à-dire pour les hommes portant chapeau et épée, et pour les dames, c'est un peu plus flou, il devait y avoir une sorte de physionomiste à l'entrée du château pour vous laisser rentrer ou non. Et cette accessibilité va choquer les étrangers, et notamment plus d'un siècle plus tard, où on a le cas de Arthur Young, qui était un agriculteur au sens noble, c'est-à-dire un gros propriétaire agricole anglais, qui écrit, lorsqu'il est venu plusieurs fois à Versailles, notamment ce 23 septembre 1787, « Je vais de nouveau à Versailles. En examinant l'appartement du roi qu'il venait de quitter, avec ses petites marques de désordre qui prouvent qu'il l'habite, il était amusant de voir des figures de galériens qui se promenaient librement dans le palais et même dans la chambre à coucher du roi. Des hommes dont les haillons démontraient le dernier degré de pauvreté, et j'étais la seule personne qui parut surprise de les y voir. Il est impossible de ne pas aimer cette indifférence et ce manque de soupçon. On aime le maître de maison qui ne serait pas offensé de voir ses appartements ainsi remplis s'il retournait subitement. Car si l'on craignait qu'il le fût, on ne permettrait pas d'entrer. C'est certainement un trait de ce bon naturel, donc en français dans le texte, partout visible en France. » Pour se rendre compte de la diversité des domestiques de Versailles, plusieurs sources peuvent être sollicitées et convoquées. On a déjà évoqué les juristes, qui restent vraiment d'une très grande utilité. Et toujours Charles Loiseau, en évoquant les offices de la maison du roi, note: ce sont ici sans doute les plus vrais officiers du roi qui l'assistent et servent lui-même journellement, au lieu que les autres servent l'État et le public, et non pas directement la personne du roi. Ces officiers étaient dits commensaux, c'est-à-dire, ça venait du latin cum avec et mensa, la table, c'est-à-dire, étymologiquement, ça rappelle le lien très fort qui unissait le roi avec ses officiers domestiques, c'est-à-dire qu'ils mangeaient à la même table. Alors évidemment, sous le règne de Louis XIV, il y a bien longtemps que seule la famille royale étroite, c'est-à-dire fils, filles, petits-fils et petites-filles de France, peuvent manger à la table du roi. Néanmoins, on conserve encore ce terme de commensal qui prouve ce lien important et dont se revendiquent tous ces grands ces officiers de cour qui sont nourris aux frais du roi. Et pour eux, c'est très important. On en a des témoignages très précis, notamment du valet de chambre ordinaire du roi Marie Dubois, qui évoque l'honneur d'être nourri et logé aux frais du roi. Donc pour eux, c'est vraiment la caractéristique la plus importante. Tous ces domestiques étaient répertoriés dans des publications administratives précieuses, qu'étaient les États de la France, que vous connaissez peut-être, qui sont des sortes d'annuaires administratifs, avec une description plus ou moins importante des charges. Vous avez ici un exemple de l'État de 1698, où vous voyez le titre complet, qui évoque toutes les charges qui sont mentionnées. Et ainsi défilent devant nos yeux plusieurs centaines de charges de l'ancienne monarchie française, depuis le grand aumônier, le grand maître de la maison du roi, les capitaines des gardes du corps, jusqu'aux musiciens de la chapelle, les fourriers, qui sont, on va le voir ici, des officiers en charge du chauffage du château, et dont la description ici évoque les fonctions des officiers de fourrière sont de fournir tout le bois de chauffage de la maison du roi qui se consomme tant à la chambre, antichambre et cabinet de sa majesté qu'à sa bouche, à toutes les autres offices, à toutes les salles, même aux salles des gardes, au corps de garde des gardes françaises et suisses. Ils fournissent aussi le charbon nécessaire et la paille. Ils ont aussi soin de faire les feux de l'appartement du roi pendant toute la journée. Lorsque le roi ou monseigneur ont besoin de prendre le bain dans la chambre ou de se laver seulement les pieds, c'est aux officiers de fourrière à faire chauffer et à verser l'eau chaude. Et le roi ou monseigneur étant au bain, dans le moment qu'il faut brûler ou faire exhaler quelques senteurs, c'est à un officier de fourrière à tenir la pelle chaude sur laquelle on répand ses parfums. En fait, j'ai choisi cette charge pour l'aspect du bain du roi, parce que c'est un petit combat que je mène depuis de nombreuses années, de dire qu'il y a une hygiène à Versailles et que le roi prenait des bains, comme vous pouvez le voir ici, le cas particulier. On peut encore noter parmi ces officiers de nombreux sommiers, c'est-à-dire des transporteurs, qui tous participent au fonctionnement de la cour. Le roi disposait ainsi d'une maison ecclésiastique, d'une maison civile ou domestique, et enfin d'une maison militaire, qui sont les trois grandes catégories de la maison du roi, lesquelles se subdivisaient encore en plusieurs départements pour répondre complètement au service du roi. Si la maison ecclésiastique du souverain ne dispose que d'un seul département, dirigé par le grand aumônier, la maison domestique, en revanche, sous la direction originelle du grand maître de la maison du roi, qui est un condé à partir de 1643 et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, cette maison domestique a, elle, plusieurs départements, donc la chambre proprement dite, qui est dirigée par le grand chambellan, avec de nombreux services de la chambre, également donc la chambre proprement dite, c'est-à-dire les officiers qui s'occupent vraiment de la chambre du roi, mais également les officiers de la garde-robe, des menus plaisirs, en charge notamment des différents divertissements royaux, et pour ceux qui sont allés à la visite auparavant, aussi des funérailles royales, puisque ce sont les mêmes officiers qui s'occupent non seulement des fêtes, mais également des catafalques et de tout ce qui est rite funéraire. Celui de la faculté, avec les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, etc. Vous aviez également les officiers pour les logements et les bâtiments des maisons royales, qui sont dirigés par le surintendant des bâtiments et le grand maréchal du logis. Quant à la maison militaire, elle comporte elle aussi de nombreux services liés aux différents régiments et compagnies de garde, très nombreux, en charge de la sécurité des dehors, et du dedans du château. Alors ces termes de dehors et dedans tiennent aux différentes grilles que vous avez au château. Vous savez qu'avant d'accéder à ce qu'on appelle le logis du roi, vous devez franchir un certain nombre de barrières symboliques. Aujourd'hui, vous n'avez plus que deux grilles. À l'époque, vous pouviez en avoir jusqu'à trois. Une qui a disparu assez rapidement, qui bordait la cour de marbre. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes sur la place d'armes, c'est-à-dire le parking, vous n'êtes pas dans le logis du roi. Vous passez une première grille qui est la grille d'honneur. Vous arrivez sur la cour des ministres, bordée de part et d'autre par les ailes des ministres. Vous n'êtes toujours pas dans la résidence royale. Et enfin, vous passez la grille royale, à pied en général, si vous êtes un simple courtisan. Si vous êtes plus gradé, c'est-à-dire si vous êtes membre de la famille royale, ambassadeur, ou si vous disposez des honneurs du Louvre, vous avez le droit de passer la grille royale en carrosse, et là, vous accédez véritablement au logis du roi, et là, vous êtes dans les dedans. Et donc, cette barrière symbolique permet de délimiter tout un système de garde entre les dehors et les dedans, et ce ne sont pas les mêmes gardes qui s'occupent de l'un et de l'autre. Alors, avoir une cour grosse, comme on disait alors, renforçait la notoriété nationale et affirmait la puissance d'une cour. Primi Visconti, toujours lui, après avoir évoqué les officiers les plus importants de la cour, mentionnait dans ses mémoires en 1679, je cite, « Les autres charges de la maison du roi sont nombreuses, surtout à cause des quartiers qui quadruplent les domestiques, si bien qu'il n'y en a plus de 7000 sans compter les soldats de la maison du roi. » Alors les quartiers, ce sont des temps de service. Au départ, vous aviez des personnes qui pouvaient servir seules dans une seule et même charge à temps plein. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que soit pour augmenter la cour ou pour décharger les officiers, on a augmenté ces charges, c'est-à-dire que les charges se sont multipliées, mais assez rapidement, elles se sont démultipliées pour des questions financières, évidemment, puisque lorsque vous créez une nouvelle charge, vous la vendiez, et donc ça faisait des revenus immédiats pour la monarchie. Les revenus immédiats qui sont immédiats, mais sur le court terme, se révèlent beaucoup plus coûteuses, puisque vous avez à payer les gens. Et donc, généralement, les charges à la cour, pour les plus nombreuses, se répartissaient par quartier, c'est-à-dire par trimestre. Vous aviez un certain nombre de personnes qui servaient dans la même charge tous les 3 mois. Et donc, voilà ce qui explique Primi Visconti, qu'en multipliant tous ces officiers, on arrive à presque 7000. Alors au début, le chiffre peut apparaître un peu astronomique. On peut se dire, est-ce qu'il y a vraiment 7000 personnes à la cour? Et on se rend compte finalement que le chiffre n'est pas éloigné, puisque vous avez un premier recensement de la cour en 1722, au moment où Louis XV revient à Versailles, après avoir quitté Versailles pendant plus de 7 ans, à la mort de Louis XIV. Et on a un premier recensement officiel de la cour, et on s'aperçoit que vous avez 6740 personnes qui sont logées aux frais du roi, dont 4000 dans le château lui-même et 2740 dans les dépendances en ville. Donc finalement, ce qu'en dit Primi Visconti n'est pas totalement erroné. Alors à ces différents individus officiers, c'est-à-dire qui sont propriétaires de leurs charges et qui ne peuvent être démis à moins de commettre un crime de lèse-majesté, il y a des rares cas qui sont mentionnés. Néanmoins, une fois que vous avez acheté votre office, si vous ne le revendiez pas ou si vous ne le mouriez pas en charge sans héritier, etc., vous le conserviez dans la famille. Ces charges donnent évidemment des avantages et privilèges non négligeables, dont les plus importants restent évidemment l'exemption d'impôts et des privilèges honorifiques. À tous ces personnages viennent s'ajouter une foule d'autres domestiques qui n'ont pas le rang d'officier commensaux, et on pense en premier lieu à plusieurs petits métiers d'appoint qui gravitent dans l'entourage de la cour et qui vivent grâce à elle. Je pense aux fournisseurs, aux marchands, aux tenanciers de boutiques qui prennent place dans les baraques aux abords du château. Et ces derniers sont très importants à la vie économique de la cour, qui a vraiment besoin de ces objets, de ces denrées luxueuses pour son quotidien. Il ne faut pas non plus oublier un personnel plus officiel, mais indispensable au bon fonctionnement de la résidence, et que Jacques Levron, je vous le rappelle, a appelé dans son livre « Les Inconnus de Versailles » les utilités. À ce titre, les gens du château, c'est-à-dire qui dépendent de l'intendant ou du gouverneur du château de Versailles, ont une bonne place. Ils sont payés directement sur le budget du château. On a les frotteurs de parquet, les ciriers, ceux qui cirent les parquets, les porteurs d'eau, etc. Les ouvriers de journée qui réparent tel ou tel aspect du château, mais également les jardiniers engagés la journée. Bref, tout un petit personnel, un petit monde de métiers qui dépendait directement du gouverneur de Versailles. Il faut encore ajouter un personnel plus connu, les fameux garçons bleus, dont Saint-Simon nous parle régulièrement dans ses mémoires, et ces derniers arboraient un uniforme caractéristique, un juste corps bleu garni de galons d'or et d'argent, Et leur rôle apparaît assez multiple. Ils sont là pour suppléer tous les officiers de la chambre, c'est-à-dire le service le plus proche du roi. On voit ces garçons bleus qui s'affairent sous les ordres du premier gentilhomme de la chambre, ou des premiers valets de chambre, ou d'un certain nombre de personnages, ou des valets ordinaires, et ils bénéficiaient des fameuses entrées par les derrières qui étaient si enviées par les courtisans, et dont Saint-Simon parle également. Et ils sont surtout présents lors des soirées d'appartement, dont vous avez ici une gravure très connue du sixième appartement, sixième chambre des appartements. On voit au centre, c'est l'un de ces garçons bleus qui présente des collations pour les invités. Alors tous ces officiers, tous ces domestiques, pardon, officiers ou non, forment donc un ensemble complexe qui appartient à ce qu'on appelle la cour et où il ne manque pas de se créer évidemment des liens importants entre les habitants. Et j'en viens à cette idée que la cour est un lieu évidemment où les réseaux sociaux et familiaux sont très importants, où des alliances se tissent à tous les niveaux. Un service assidu et efficace auprès du roi et de sa famille permet la création de grandes dynasties curiales qui connaissent, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, de grandes ascensions. Il en est ainsi particulièrement des domestiques qui approchent directement le souverain ou la souveraine. Pourtant, juridiquement, s'il était interdit de posséder un autre office dès lors qu'on était officier commensal, on s'aperçoit que tout ceci restait purement théorique, puisque une fois que vous aviez acquis une charge qui vous donnait un accès privilégié au souverain, même si elle ne vous donnait pas des revenus très importants, vous en profitiez pour vous faire donner une autre charge de trésorier, de l'épargne ou une charge de finance qui vous rapportait bien plus que votre charge principale et qui augmentait évidemment grandement vos revenus. Donc on voit en fait des passe-droits permanents. Il faut rappeler que la cour est un monde de privilèges et l'étymologie de privilège, c'est privata et leges, les lois privées. Et donc on voit que évidemment tous ces privilèges ou tous ces codes ou ces règles pardon, souffrent d'exceptions comme la plupart des institutions de l'époque qui est un véritable millefeuille administratif. Alors, il n'était pas rare ainsi de cumuler une charge de valet de chambre avec celle de concierge. C'est le cas des Lebel, dont j'ai traité dans le livre sur Au service du roi, cette famille, cette dynastie importante sur laquelle on pourra revenir par la suite, qui commencent comme concierge, deviennent valet de chambre ordinaire, puis premier valet de chambre, ensuite intendant du Louvre, etc. Donc, vous avez des ascensions qui se créent comme ça. Tous ces détenteurs de charges occupent progressivement des postes clés d'administration du château, permettant ainsi de placer toute leur progéniture dans les différentes places qu'ils ont accumulées. C'est du népotisme organisé, mais qui n'a pas totalement disparu, mais qui est en tout cas très marqué à l'époque. Tous ces personnages tissent aussi généralement entre eux des liens sociaux très importants, qui souvent se matérialisent par des alliances matrimoniales. Un valet de chambre épouse généralement une femme de chambre de la reine. On a le cas de Pierre Denière qui est développé dans le livre. Un apothicaire épouse une fille des médecins, etc. Et les mariages se négocient sur des paris sur l'avenir et on n'hésite pas à payer des dots importants pour une fille car on compte récupérer une charge significative dans la nouvelle belle famille. Ce sont par ces petits pas que se fait patiemment une ascension dynastique. Et plusieurs familles en sont de parfaits exemples. On peut ainsi citer le cas des Laroche, qui, de simple concierge de la ménagerie à l'époque de Louis XIV, avec Geoffroy de La Roche, qui est ce personnage qui épouse, qui arrive en fait de son Lyonnais au début des années 1670, et qui épouse la fille du concierge de la ménagerie, et qui va connaître une ascension familiale assez importante, puisqu'il va connaître une alliance non seulement avec les Lebel, dont le dernier Rocheton est le fameux Dominique-Guillaume Lebel, le premier valet de chambre de Louis XV, que vous avez vu notamment dans Fanfan à la Tulipe, mais aussi dans toutes les évocations de Louis XV, et qui était ce pourvoyeur de jeunes filles pour Louis XV, mais donc des alliances des Laroche avec les Lebel, mais également avec les Paris. Il faut savoir qu'au début du XVIIIe siècle, Geoffroy de Laroche marie ses deux filles, deux de ses filles, à deux frères Paris. Et là, on est vraiment sur un pari sur l'avenir, parce que à l'époque, elles ont une dot chacune de 40 000 livres, ce qui n'est pas énorme, on est déjà dans des milieux sociaux assez importants, mais les frères Paris, ce qu'ils voient à ce moment-là, en 1706 et 1708 ou 9, je ne sais plus quel est le deuxième mariage, c'est l'accessibilité de la Roche auprès du couple Bourgogne, puisque la duchesse de Bourgogne, qui est très attachée à la ménagerie de Versailles, vient régulièrement et prise affection pour le couple La Roche, et les Paris voient évidemment cette possibilité d'avoir accès au couple qui est appelé à régner un jour. Bon, ça ne sera pas le cas, néanmoins, ce mariage va leur permettre d'obtenir des marchés très importants pour les ravitaillements de la guerre, et les Paris, ce sont, s'ils ont une dot de 40 000 livres, du moins si leur épouse a une dot de 40 000 livres en 1706-1710, 5-6 ans après, ce sont des fortunes de plusieurs millions de livres. Les Paris, ce sont les plus gros financiers, parmi les plus gros financiers du début du règne de Louis XV, ce sont tout l'entourage de Madame de Pompadour, ces hôtels particuliers sur la place Vendôme, etc. Donc vous voyez cette ascension qui se fait progressivement. Et à la quatrième génération des La Roche, vous aurez la vicomtesse de Rochechouart et la duchesse de Mont et de Villequier. Donc vous voyez, en l'espace de moins de 100 ans, cette ascension du concierge de la ménagerie de Versailles, qui n'est pas grand-chose, et dont l'arrière-petit-fils terminera également concierge de la ménagerie de Versailles et premier valet de garde-robe, mais dont on prendra toujours soin de dire qu'il sentait mauvais sous prétexte qu'il était concierge de la ménagerie de Versailles, mais qu'on ménagera, excusez-moi du jeu de mots, en raison de ses nièces qui sont vicomtesse de Rochechouart et duchesse d'Aumont. Ce monde qui entoure la famille royale constitue une sorte de gens romana composé de clans familiaux qui accaparent, je l'ai dit, toutes les charges principales, bien loin de la spécificité des offices qui, à l'origine, ne devaient pas être vendus mais être attribués suivant le principe du bon discernement royal. La vénalité des offices, c'est-à-dire la possibilité de les vendre entre particuliers, est née de la nécessité impérieuse de la monarchie de gagner de l'argent très rapidement. Madame Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, ne s'y trompe pas lorsqu'elle évoque ses souvenirs à la cour de Louis XIV et qu'elle rappelle qu'elle déplorait d'être servie, je cite, lorsque le roi mangeait avec les dames ou en voyage, par des gens qui n'étaient pas gentilshommes. Anciennement, tous les officiers du roi, tels que ceux de l'échansonnerie, du gobelet, du fruit, etc., étaient gentilshommes. Mais depuis que la noblesse est devenue pauvre et que toutes les charges se sont payées cher, il a fallu prendre de bons bourgeois qui eussent de l'argent. Les titulaires retenus continuaient toutefois de faire l'objet d'une enquête de bonne vie et bonne mœurs, mais la royauté ne contrôlait plus directement les recrutements, ce que Saint-Simon critiquait vivement au début du règne de Louis XV en tentant de convaincre le régent de reprendre la main sur la distribution des offices. Et là, je vous mets une longue citation parce qu'elle est un petit peu... il faut la digérer. Et voici quelle était l'idée de Saint-Simon auprès du régent. « Je voulais rendre, monsieur le duc d'Orléans, maître de toutes les principales charges de la cour à mesure qu'elle viendrait à vaquer et d'autres dont je parlerai après, et lui donner auprès du roi l'honneur de les lui faire trouver libre à sa majorité. Il n'y en avait presque plus qui ne fussent en survivance. » Alors, survivance, c'était la possibilité d'assurer à l'un de vos fils, neveux ou toute personne que vous désignez, la possibilité que, si vous mouriez en charge, elle puisse passer directement à la personne que vous aviez choisie. Donc vous n'aviez pas à vous soucier de savoir à qui elle passerait. Il n'y en avait presque plus qu'une fût sans surveillance ou chargée de gros brevets de retenue. Brevet de retenue, c'est un brevet d'assurance vie, en fait. C'est-à-dire que si vous mourrez en charge, si le roi vous a garanti 200 000 livres sur votre charge, la personne qui la récupère est obligée de payer minimum 200 000 livres à l'héritier. Donc je reprends. Il n'y en avait presque plus qui ne fussent en survivance ou chargés de gros brevets de retenue qui tendaient au même effet. Par ce moyen, elles étaient rendues héréditaires. Qui n'en avait point n'en pouvait espérer. Le roi n'avait rien à disposer. Les fils succédant au père obtenaient sûrement ou sur le champ ou tôt après le même brevet de retenue. Et si par hasard, d'une fois en 20 ans, il s'en trouvait une à disposer, c'était en payant le brevet de retenue par le successeur qui alors en obtenait sur le champ un pareil. Cette grâce lui faisait bien trouver la somme entière du prix de la charge, mais les arriérages de cet emprunt étaient au moins égaux aux appointements de la charge, en sorte qu'il la faisait à ses dépens et s'y ruinait souvent. » Alors, l'un des arguments de Charles Loiseau, toujours ce juriste du XVIIe siècle, contre la vénalité des offices, est précisément le fait que des personnes mal intentionnées, souvent fortunées, puissent se glisser parmi les proches domestiques royaux, et vous en avez ici deux exemples de ce qu'il pouvait dire, mais surtout ces choses dangereuses pour ce que l'entrée près à la personne du roi étant ouverte à l'argent, ennemi perpétuel de la vertu et instrument ordinaire de la trahison, est-il pas à craindre que les ennemis de Sa Majesté y jettent, à force de doublons, tant de personnes qui voudront à leur dévotion pour faire un coup à tout perdre ? Ou encore bien plus, bien pire en tout cas pour l'esprit de Charles Loiseau, la personne, voire la vie du roi, est continuellement en la possession et en la puissance de ses officiers domestiques. S'ils sont méchants et traîtres, il est du tout impossible d'exempter notre Alexandre d'un mauvais complot. En effet, où se situe la fidélité de ces officiers, qui souvent se donnent à certains seigneurs par proximité géographique, et la fidélité qu'ils devaient à leur roi. Donc on a vraiment ici le cas de figure où il faut savoir à qui est son véritable maître. J'en viens enfin à ma dernière partie sur l'idée que Versailles est une ville dans la ville et la cour, on l'a dit, s'offre comme un véritable creuset de la société et dispose à ce titre d'une hiérarchie interne qui mélange l'officiel et l'officieux. La géographie de l'habitat versaillais est un bon marqueur de la hiérarchie sociale. Il permet de saisir les rangs de chacun dans le palais. La naissance, mais aussi et surtout l'usage, commande cette topographie. Avoir un logement à la cour est déjà une victoire en soi, mais être le plus proche du souverain devient un triomphe. Ceci est clairement affirmé par le duc de Cruy, qui, sous le règne de Louis XV, écrivait dans son journal, je cite, « J'ai toujours remarqué que les deux seules grâces réellement d'un usage agréable à la cour sont les entrées et un bon logement au château. Le reste est peu de chose auprès de cela. » Il rejoint en cela ce que dit également Saint-Simon à propos du logement. On dit qu'il faut absolument avoir un logement à la cour pour vivre, pour vivre à la cour, mais c'est un peu redondant ce que je vous dis, mais la cour, c'est, vous pouvez être à la cour sans y habiter. Le sanctuaire restait toutefois le corps central du château où habitaient le roi, la reine et leurs enfants. Il restait toutefois des espaces pour les domestiques les plus proches, tels les premiers valets de chambre du roi ou encore les premières femmes de chambre de la reine, et les titulaires de ces charges sont loin d'être de grands seigneurs et d'appartenir à la haute noblesse, mais ils avaient besoin d'être à proximité de leur maître et maîtresse pour servir à tout moment. C'est ainsi que François-Louis de Nières, qui est premier valet de chambre du roi, disposait d'un très bel appartement juste au-dessus de du grand appartement de la reine. Alors aujourd'hui, ce sont les attiques que vous avez reprises par Louis-Philippe, qui sont des salles vraiment 19e. Néanmoins, les espaces ont été redistribués et vous avez, on voit en tout cas par rapport aux fenêtres, que ça correspondait quand même à 5 pièces de belle envergure, à peu près 200 mètres carrés, juste au-dessus de du grand appartement de la reine et qui donnait sur le parterre du Midi. Donc, vous voyez, ce ne sont pas des appartements négligeables. Tous les commensaux n'ont toutefois pas cet avantage. Les premiers gentilshommes de la chambre ou les dames d'honneur de la reine, pourtant tous ducs et duchesses, se répartissaient entre les ailes du Midi et du Nord. Ils disposaient néanmoins de beaux logements, composés généralement d'une antichambre, d'une chambre, d'un cabinet et d'une garde-robe, sans compter les nombreux entresols. Alors quand on vous parle de Niara à Versailles, parfois il faut le voir avec des Niara pour les gens de l'époque. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces personnages ont l'habitude de vivre dans des hôtels particuliers avec plusieurs dizaines de pièces, plusieurs dizaines de pièces. Et lorsqu'ils arrivent à Versailles et qu'on leur donne un 5 pièces cuisine au mieux, même si ce sont des grands espaces pour nous aujourd'hui, pour eux, c'est considéré comme des niaras. De même, la hiérarchie sociale est souvent contredite par la hiérarchie intime. Si elle offre un accès privilégié au monarque, une charge élevée, réservée à la haute aristocratie, ne donne pas nécessairement un accès à la privance du roi. Le système évoqué par le duc de Cruy, des entrées chez le roi, et donc son accès, permet de saisir cette nuance. Il existe ainsi diverses entrées chez le monarque, et le duc de Saint-Simon en distingue 6, dont les plus importantes semblent être celles par les derrières que possèdent non seulement des personnes à titre individuel, mais aussi les serviteurs les plus proches du souverain. Je vous laisse lire peut-être la citation parce que c'est très subtil de comprendre ces différentes entrées, mais on voit une gradation et on voit évidemment l'idée que Versailles ne se mesure pas forcément à la naissance, en tout cas le rang à Versailles ne se mesure pas à la naissance, mais se mesure surtout à la proximité que vous pouvez avoir avec le roi. Alors, concrètement, l'entrée par les derrières permettait de passer d'un lieu public, le grand appartement, à un lieu privé, le petit appartement. À Versailles, cela signifiait que les officiers les plus intimes du souverain, comme les premiers valets de chambre, pouvaient se rendre sans aucun problème du château neuf, c'est-à-dire la partie du château sur les jardins, au château vieux, partie visible sur la cour de marbre, qui abritait les cabinets privés du roi. Les serviteurs de moindre importance devaient, eux, se contenter de regarder de loin ces balais d'étiquette, mais aussi d'espaces bien plus réduits et standardisés dans le bâtiment des offices, autrement appelé le grand commun. Alors évidemment, là, on n'est plus dans des quatre pièces, etc., avec entresol, on est plutôt dans une chambre standard type Formule 1, 10 mètres carrés, que vous alliez partager à deux avec un collègue qui avait la même charge que la vôtre. Alors cet immense bâtiment qui a été construit entre 1682 et 1684, donc pour ceux qui connaissent Versailles, c'est cet immense, l'ancien hôpital Larrey, et cet immense bâtiment des offices qui fait environ 20 000 mètres carrés rue de l'indépendance américaine, dont l'entrée principale est rue de l'indépendance américaine, et qui court entre la rue des Récollets, la rue Pierre de Nolhac, la rue de l'indépendance américaine et la rue Saint-Julien. Qui accueillait sur quatre niveaux les officiers de moindre importance. Ainsi, au rez-de-chaussée, vous aviez des nombreux services, la lingerie du roi pour son service de table, sa fourrière, etc., des grandes pièces communes dédiées aux domestiques avec les tables pour les différents officiers, avec la salle des valets de chambre, la salle des aumôniers, la salle des serdeaux, etc. C'est-à-dire, c'était la cantine, hein, le self pour les officiers quotidiens. Mais vous aviez également une chapelle et une sacristie. Les étages supérieurs étaient dévolus au logement. Ainsi, alors que le devis de construction en décembre 1681 prévoyait 103 logements, ils sont déjà 220 en 1722, avec le système de recloisonnement, parce que même si Versailles, au départ, apparaît comme un chantier immense et un palais immense, très rapidement, on a une crise du logement et on recloisonne pour loger de plus en plus de monde. Et finalement, en 1722, on se rend compte qu'il y a 1500 personnes qui habitent au grand commun. Alors que vous en aviez 4000, je vous l'ai dit, dans le château. À l'instar du château, la taille et le confort sont différents d'un appartement à l'autre. Dans les étages élevés, ce sont souvent les officiers servant par quartier, c'est-à-dire par trimestre, et de moindre rang qui prennent place dans des petites pièces réduites au confort très spartiate dans les galetas du grand commun. Vous avez ici un plan, une chambre de valet de chambre, où vous apercevez les deux couchettes, ici, et dont la description des archives nationales nous renseigne sur l'ameublement très sommaire. Donc je cite « Chambre au fond du corridor, une chambre de bois de chêne avec sa tablette à la cheminée, dans l'embrasement de la croisée donnant sur la rue de la Surintendance, donc c'est l'actuelle rue de la Surintendance, une cloison avec une porte pleine sans serrure pour former une garde-robe, quatre tablettes dans la dite garde-robe à côté de la cheminée, dans un renforcement, une petite armoire avec deux tablettes et la serrure, au même logement, chambre servant à messieurs les valets de chambre du roi en quartier, une chambre en bois de chêne à la cheminée. » Donc là, on est sur des espaces vraiment très, très réduits. Mais dans cet espace du grand commun, la population est aussi très disparate, puisqu'on y trouve évidemment les nombreux officiers commensaux, mais aussi des personnes de plus grande importance, comme le marquis de Villars, qui est le père du maréchal, le marquis de Vardes, plusieurs membres de la famille Colbert, ou encore André Le Nôtre. Mais pour certains de ces personnages, le logement dans le grand commun, trop assimilé aux simples serviteurs, n'est qu'un pis-aller en attendant d'obtenir un logement au château, véritable aboutissement. Certains y parviendront, d'autres demeureront perpétuellement dans le carré des offices, dans des appartements moins prestigieux. Il en est ainsi de Cinquetot, l'introducteur des ambassadeurs et le grand maître de cérémonie, ou Jean-Jacques II de même, grand maître des cérémonies de l'ordre du Saint-Esprit. La cour de Versailles, à l'époque de Louis XIV, offre donc l'image d'une micro-société où cohabitent des individus fort disparates, mais finalement tous domestiques d'une famille royale et au service du bon fonctionnement de leur résidence. Alors, j'en viens plus particulièrement maintenant en conclusion à comment s'est fait ce livre sur « Au service du roi », comment se sont fait les recherches, les choix des personnages, et simplement vous dire que Le but, c'était de prendre des charges, de commencer par les charges. Je voulais mettre en avant un certain nombre de charges et d'expliciter à travers certains personnages des charges bien particulières. Je mets juste ici les plans pour que vous voyez les types de charges qui ont été envisagées. Et le but, c'était de prendre des personnages ni trop inconnus, parce que sinon vous n'aurez rien trouvé sur, j'aurais rien trouvé sur eux, ni trop connus, parce que sinon ils auraient déjà leur biographie qui existe. Et finalement, en choisissant ces personnages de façon un petit peu arbitraire et en fonction des sources que je trouvais, puisque le but c'était de trouver un maximum d'informations chez les notaires ou dans les registres paroissiaux, parfois avec des coups de chance, etc., je me suis aperçu que les choix étaient assez judicieux, parce que tous ces personnages se sont rencontrés à un moment de leur vie, soit par des alliances sociales, des alliances de travail, soit par des véritables alliances matrimoniales. On a évoqué tout à l'heure les Laroche avec les Lebel, mais les Quentin également. Vous voyez ici Marie-Angélique Madeleine Poisson, qui était la première femme de chambre de la Dauphine, qui était mariée au barbier Jean Quentin, et avec son nom Poisson, qui est quand même assez significatif. J'ai essayé de faire le lien, notamment avec Madame de Pompadour, née Poisson, d'autant plus qu'elle signe au contrat de mariage des Laroche, qui seront les parrains et marraines de Madame de Pompadour. Néanmoins, il n'y a aucun lien, et d'autres personnes, d'autres chercheurs s'y étaient essayés avant moi, auparavant, pour avoir étudié toute la généalogie de Madame de Pompadour, et il se trouve que c'est une pure homonymie, et donc il n'y a pas de lien. Mais tous ces personnages, vous voyez, se rencontrent, se côtoient, donc j'ai essayé d'être de panacher, j'ai malheureusement pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de parité, je n'en avais que deux. La difficulté, c'est de trouver des femmes qui soient autre chose que des femmes de chambre ou Donc là, vous avez une première femme de chambre, qui est une femme de chambre qui devient une première femme de chambre, et la gouvernante des enfants de France. Mais c'est assez difficile de trouver des femmes en dehors des femmes de chambre pour la cour. Et vous voyez, j'ai souhaité commencer véritablement par les vrais constructeurs de Versailles, puisque ce sont les Mazières et Bergeron, qui sont les principaux entrepreneurs maçons de Versailles, qui auront les plus gros marchés pour de construction. Et par la suite, on parcourt à la fois des premiers valets de chambre, un colonel du régiment des gardes suisses, Pierre Sopa, qui sera emblématique de la cour à Versailles, puisqu'il sera le véritable chef du régiment des gardes suisses, dans la mesure où le duc du Maine, qui est nommé colonel général des gardes suisses à l'âge de 4 ans, en 1674, n'aura jamais autorité, et il y aura Bontemps qui sera nommé secrétaire général des Suisses et Grisons pour la partie administrative, et Pierre Sopa qui sera véritablement le chef effectif sans en avoir les honneurs, parce qu'il n'est pas le colonel général. Et néanmoins, même le duc du Maine, à l'âge adulte, n'osera jamais prendre aucune décision du vivant de Pierre Sopa, de son propre chef. Donc il attendra 1701 la mort de Pierre Sopa pour prendre une décision. Il m'est semblé intéressant aussi de prendre le côté du duc de La Rochefoucauld, qui est le fils de l'auteur des Maximes, et peut être considéré comme l'un des amis, si tant est que Louis XIV ait eu des amis dans sa vie, de Louis XIV. Mais je l'ai pris sous l'angle du grand maître de la garde-robe et grand veneur, c'est-à-dire en charge de la chasse à Versailles. Le marquis de Cavois, avec un titre un peu provocateur, puisque la réponse est évidemment non, pour est-ce que c'est le frère du masque de fer, mais c'est une des hypothèses qui avait été développée par l'historiographie, mais qui a un parcours très intéressant au point de vue du grand maréchal du logis, c'est-à-dire l'officier qui est en charge des déplacements de la cour, et on se rend compte que lorsque Louis XIV se déplace, même pour aller à la guerre, il a 500 personnes qui le suivent. Ce sont 500 personnes, non seulement pour son service, mais également pour faire un semblant de cour, des musiciens, les maîtresses enceintes suivent, etc. Et donc ça suppose une logistique que met en place le grand maréchal du logis. Également Clermonceau, qui est un personnage assez énigmatique, qui est l'intendant madame de Maintenon, mais qui s'occupe de la mise en place de Saint-Cyr en 1686, et pendant plus de 3 ans, qui lance vraiment la maison royale de Saint-Louis, et qui par la suite devient aussi valet de chambre du roi, et qui va connaître une ascension avant qu'elle soit totalement stoppée, puisque son fils commettra l'imprudence de commettre quelques malversations financières dont son père ne pourra pas le tirer, et donc la dynastie s'arrêtera subitement avec Pierre Monceau. Également le curé de Versailles, qui est un personnage aussi intéressant, qui est un lazariste, qui n'est pas du tout programmé, si vous me permettez cette expression, pour venir à la cour de Versailles avec tout le luxe et le stupre qu'il y découvre, puisque les lazaristes sont quand même une congrégation de Saint-Vincent-de-Paul qui avait pour but d'évangéliser non seulement les campagnes, mais aussi l'étranger. Et donc ce n'est absolument pas le but de tenir une paroisse, mais Louis XIV a tenu à partir de 1674 à avoir les lazaristes à Versailles, et le François Hébert arrivera en 1686 à Versailles, quittera en décembre 1703 dans des conditions un petit peu obscures. On pense que sa nomination à l'évêché d'Agen peut être présentée comme une promotion, mais qui en fait est plus vraisemblablement il a été plus vraisemblablement évincé par François d'Aix de la Chaise, qui voyait d'un mauvais œil les critiques qu'il faisait des paroissiens versaillais. Bon, la gouvernante des enfants de France, la maréchale de la Motte-Houdancourt, qui est une immense dynastie durera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime avec ses descendantes, Marie-Angélique Poisson, dont on a déjà parlé, les Lazures, qui sont les fameux cuisiniers Lazures de Louis XV et qui met en place les petits soupers pour permettre à Louis XV de se tirer de sa timidité, puisqu'on savait que Louis XV, enfant, était mélancolique et un peu timide, et c'est une idée géniale, non pas de Lazure, mais de l'entourage de Louis XV, pour lui permettre de créer des distances et de conserver l'étiquette. Les fameux Lebel, qui en 1660 sont les concierges de Versailles, qui n'ont encore rien, et qui finalement vont terminer avec Dominique Guillaume Lebel, ce célèbre premier valet de chambre, qui meurt en 1768 avec une fortune colossale, estimée à 1 300 000 livres, où il a chez lui, en louis d'or, 300 000 livres. C'est-à-dire l'équivalent de 90 kg d'or pur en louis d'or chez lui. Donc on imagine Louis XV en train de jeter les sacs d'or, je ne sais pas, mais voilà. Et dont tous les héritiers vivront sur ce pactole jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, parce que tous ces héritiers, que ce soit les Laroche ou ses neveux, etc., chaque fois qu'il y a un inventaire après décès, on voit qu'on se réfère à l'inventaire de Lebel en 1768. Et enfin les Laroche, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un petit peu été un peu vite là-dessus, mais simplement pour vous dire que tous ces personnages sur lesquels, je me suis un peu penché, on se rend compte que ces personnages, finalement, qui apparaissent un peu secondaires, ne le sont pas tant que ça, parce que c'est la véritable société de cour de Versailles, et maintenant, je me rends compte que je pourrais faire un livre sur chacun d'eux, tant c'est passionnant, et voilà. Je termine là-dessus en vous remerciant de votre attention, et si jamais vous avez des questions ou des précisions, je me tiens à votre disposition. Il faut savoir, c'est que pour être à la cour, pour être logé à la cour, il faut avoir une charge. On peut pas être, si vous n'êtes pas membre de la famille royale, vous ne pouvez pas loger à la cour. Et vous avez une exception, qui est celle du duc de Lauzun, qui, après avoir été le grand favori de Louis XIV dans les années 60, a déplu fortement Madame de Montespan en 1670-71, est envoyé à Pignerol, et il revient simplement de nombreuses années après, après avoir sauvé, entre guillemets, la reine d'Angleterre, parce qu'il ramène la reine d'Angleterre après la révolution orangiste de Guillaume d'Orange en Angleterre, il ramène la reine d'Angleterre, et Louis XIV le loge à titre gracieux, sans qu'il ait aucune charge. Vous avez le cas de Madame de Maintenon, qui évidemment est particulier. Elle est d'abord gouvernante des enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan. Au début, tout va bien entre les deux dames. Madame de Montespan a un immense appartement qui fait une vingtaine de pièces dans le château, et donc il y a bien un endroit, un petit réduit, où on peut loger Madame de Maintenon. Sauf qu'à partir d'un certain moment, les deux dames ne s'entendent plus très bien, et il faut bien loger Madame de Maintenon. Et effectivement, effectivement, il a cette idée de créer une charge qui n'existait pas au moment, en 1680, où on forme la maison de la Dauphine, donc épouse de Monseigneur le Dauphin, le fils aîné de Louis XIV. Il crée une charge de seconde dame d'Atour pour Madame de Maintenon. Charge unique dans l'histoire qui ne sera pas recréée par la suite. Normalement, il n'y a qu'une dame d'Atour. Et donc, ce qui lui permet de la loger à proximité de ses appartements. Sous Louis XV, c'est la même chose. Moi, je reviens à Louis XIV, vous avez évoqué Louis XIV. Lorsque Mademoiselle de la Vallière est invitée à telle ou telle chose, Mademoiselle de la Vallière, elle est demoiselle d'honneur chez Henriette d'Angleterre. Bon, Mademoiselle de la Vallière, c'est particulier, parce qu'elle était déjà demoiselle d'honneur chez Henriette d'Angleterre, et elle a servi par avant, parce que Louis XIV était un petit peu amoureux de sa belle-sœur. On ne sait pas si il y a eu une véritable relation ou pas. Néanmoins, on en a beaucoup parlé, et il a choisi une demoiselle d'honneur chez sa belle-sœur pour justifier qu'il venait voir sa belle-sœur. Sauf qu'il est tombé amoureux de sa belle-sœur, donc ça, il n'y a pas de problème. Madame de Montespan a également une charge comme demoiselle d'honneur, puis comme dame d'honneur après chez la reine. Elle a une charge de surintendante. Et sous Louis XV, c'est toujours pareil. Donc soit on crée des charges, mais qui ne passent pas forcément... Alors en général, on arrive à les passer aux nièces, etc., parce que les maîtresses sont très bien mariées. On évoquait tout à l'heure avec les personnes dans la salle les sœurs de Mahinel, où on marie richement ses maîtresses pour assurer non seulement la fortune, si elles ne sont pas déjà de grandes familles, et après ça se repasse dans la famille. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ça peut passer à votre fille si vous avez une fille de dame du palais, ou alors vous avez également des charges qui sont des charges surnuméraires. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup sous Louis XV, vous avez beaucoup de dames pour accompagner la reine en surnuméraire. Normalement, vous en avez 12, ça varie entre 8 et 12, les charges de titulaire. Et à côté de cela, vous avez des dames surnuméraires qui ont une charge. Parce qu'il faut justifier. Donc, Madame de Pompadour, on lui crée une charge. Madame du Barry, on lui crée une charge pour justifier qu'elle est logée à Versailles. Et on prend toujours le soin, lors des fêtes en 1664, en 1668, comme les grandes fêtes, les désirs de l'île enchantée, lorsque le roi veut honorer de façon discrète ses maîtresses, si Mademoiselle de la Vallière est là et si Madame de Montespan sont là, c'est parce qu'on les invite au titre de demoiselle d'honneur et on invite toutes les demoiselles d'honneur de la reine. Et oh, comme quelle surprise, Mademoiselle de la Vallière est demoiselle d'honneur. Donc ça tombe bien, elle peut être à la table du roi.
Oui, je dirais en confirmant ce que vous venez de dire, que Saint-Simon, toute une grande partie de sa vie, a essayé de se faire loger à Versailles. Il n'y est jamais arrivé et il l'a obtenu que par sa femme, oui. Quand elle a été nommée dame d'honneur de la Musée de Mairie.
Mais en fait, Saint-Simon est logé toute sa vie à Versailles grâce à sa femme, comme squatteur, entre guillemets, dans la mesure où, dans un premier temps, il est logé chez son beau-père, qui a un appartement suffisamment grand, le maréchal Luc de Lorge, qui est capitaine des gardes du roi. En 1702, son beau-père meurt. Il se trouve que son beau-frère récupère la charge de son beau-père et qu'il dispose déjà d'un appartement. Donc pendant 7 ans, entre 1702 et 1709, pas de problème, Saint-Simon occupe l'appartement de son beau-père qui n'est pas récupéré. Or, en 1709, son beau-frère, le duc de Lorge, pas chassé de son appartement, mais on est un peu en crise de logement, donc il doit récupérer l'appartement de son père. Et donc pendant un an, Saint-Simon voit le spectre de l'exil et on lui propose un appartement de substitution, celui d'Effia, donc il refuse d'y habiter parce qu'il se dit si jamais Effia revient, je vais être chassé comme un malotru. Il a des amis ministres, Pontchartrain, qui ont des appartements suffisamment grands qui lui proposent de le loger. Il refuse et heureusement, Madame de Saint-Simon, qui est très bien vue de la duchesse de Bourgogne, arrive à être nommée. Elle n'arrive pas, parce que Saint-Simon le refuse dans un premier temps, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans des dialogues de Saint-Simoniste avec Georges, mais en fait, bon, sa femme obtient la charge de dame d'honneur, qui est la charge la plus importante chez une princesse, et ils ont, à partir de 1710, un superbe appartement avec une cuisine qui leur permet de recevoir. Et ce qui est intéressant de voir avec le cas Saint-Simon, c'est qu'il va l'occuper même après la mort de sa femme, qui meurt en 1743. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre notamment pour Marie-Angélique Madeleine Poisson. On voit qu'il y a une sorte de droit à la retraite à Versailles. C'est-à-dire que vous obtenez un logement et on n'ose pas vous chasser du logement. C'est-à-dire que même si vous n'êtes plus en charge ou si la raison pour laquelle vous l'aviez tenait à votre conjoint, eh ben, on se débrouille pour vous trouver quand même soit vous laisser dans l'appartement, soit vous trouver quand même quelques pièces. Et Marie-Angèle Poisson, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'elle perd de fait sa charge en 1712 parce qu'elle est la première femme de chambre de la duchesse de Bourgogne. Donc elle n'a plus de charge. Son mari est toujours premier valet de garde-robe du roi. Il meurt en 1717. Il est aussi gouverneur. Il a un appartement au Louvre. Et Madame Poisson va occuper un appartement au Louvre jusqu'en 1731, à sa mort, alors qu'elle n'a plus aucune charge. Alors il se trouve qu'elle a placé toute sa famille. Elle a quand même eu 15 enfants. Et elle en a placé 10. Très bien, parce que dans les 15, il y en a qui sont morts en bas âge, mais elle en place 10 très bien, comme premier valet de garde-robe, comme premier valet de ceci, etc., etc. Mais elle occupe un appartement à titre gracieux au Louvre. Donc on voit ce système, qui est quand même assez étonnant, de voir qu'une fois que vous avez réussi à obtenir un logement, c'est très difficile de vous en déloger. Oui ?
Est-ce que les charges peuvent être attribuées à des étrangers ?
Alors, il n'y a pas de contre-indication, en fait, parce que la notion d'étranger est très compliquée. Mais oui, puisque on a, lorsque les reines arrivent, en général, elles arrivent avec certains membres de leur suite, et donc elles sont titularisées, entre guillemets, dans certaines charges, et on a des étrangers. Alors, j'essaie de trouver un exemple là, mais beaucoup d'Italiens, à l'époque de Mazarin, qui arrivent à la cour et qui ont des charges, et notamment des Francines, je pense. Alors là aussi, pour le coup, les Francines, les Francini, qui sont les fontainiers du roi, qui sont francisés en Francine. Voilà, on a un certain nombre de personnes qui... La notion d'étranger est très complexe à l'époque, entre le droit du sang, le droit du sol, etc. C'est assez compliqué. Je ne rentre pas ici dans les détails parce que ça dépend plutôt de quel sujet on relève, les sujets de quel roi, etc. Donc c'est assez complexe. En tout cas, rien ne l'interdit.
De vœux prochainement.
Non, ma mère, elle est la prochaine. Elles sont en cours d'impression.
Ah, elles sont toujours en cours d'impression. Parce que moi, j'ai une carte de vœux que j'envoie tous les ans. Et
elles sont en cours d'impression, oui.
Ah bon, bon.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'on peut venir les chercher? Je peux vous téléphoner, par exemple?
Oui,
et puis je viendrai les chercher, parce que comme il faut que je fasse, que je vais m'en aller, je voudrais pouvoir avoir ça et faire ça très rapidement.
Oui, oui.
Parce que j'ai des amis en
Calais. Appelez avant pour vérifier qu'on les a bien reçus.
Ah oui, oui, la semaine prochaine, c'est-à-dire du 8 au...
Oui, c'est ça. J'ai pas la date exacte.
Non, mais ça fait ça. Oui, je vous demanderai dans les débuts.
D'accord.
Et puis vous me direz à partir de telle date. Comme j'ai des amis anglaises et tout ça, que les anglaises, on voit tout de suite. J'ai déjà reçu des cartes de vœux.
Ah oui,
elles sont terribles. C'est surtout pour Noël, plus que pour le jour de l'an. Nous, c'est pour le jour de l'an.
C'est vrai que c'est plus décalé.
Peu importe qu'on réponde plus tard, mais enfin, c'est quand même...
Ouais.
Voilà. Au revoir, madame.
Au revoir, bonne soirée.